Merci. Alors, je vous rappelle le point d'analyse où on est resté hier, c'est que oui. C'est que après l'intervention de Rivka dans le plan de Isaac, et vous rappelez quel était le plan de Isaac, donner la bénédiction matérielle à Ésaü et la bénédiction spirituelle à Jacob. Et Rivka intervient pour les deux raisons que je vous ai signalées et fait passer la bénédiction matérielle à Jacob. Et Ésaü a une bénédiction matérielle de remplacement qui dépend du mérite de Jacob. Vous vous rappelez de ça? Là, je vous ai donné une petite analyse qui est très importante, mais nous allons reprendre par la suite. C'est le fait qu'il y a une différence de niveau d'identité entre Jacob et Israël. De la même manière, elle est différente de nature, mais de la même manière qu'il y avait une différence d'identité entre Abraham et Abraham. Vous vous rappelez de cela? Okay. Alors, au niveau de Jacob, il y a l'option spirituelle pure et simple. Je schématise beaucoup parce que, en réalité, dans les textes, c'est beaucoup plus nuancé que ça, mais pour vous donner un fil conducteur. Alors que lorsqu'on arrive au niveau Israël, et Jacob, nommé Israël, a les deux prérogatives. C'est bien clair. Okay. Nous essaierons de voir d'ailleurs, si on a le temps encore aujourd'hui, des implications dans l'histoire juive et jusqu'à nous. J'y ai fait un peu allusion hier. Enfin, je reviens au sujet en général. Et je vous ai ajouté un premier point que nous allons étudier aujourd'hui, c'est le fait que Jacob, en tant que Jacob, à ce niveau d'identité Jacob, et vous rappelez que son option personnelle, c'était l'étude, la vie spirituelle. Ken. Je sais, vous êtes des commerçants avisés. Et là. Qu'est-ce qui manque, Michel, je sais, et puis là-bas, Claire. Et qui encore?
Laurence.
Hein? Elle n'est pas descendue?
Non.
Il manque quelqu'un d'autre encore.
Par qui?
Ça, je sais. À part elle. Là-bas.
Laurence.
C'est tout?
C'était moi qui suis là.
Mais c'est dire, ça j'ai vu, mais il manque encore une chaise.
Oui, je suis là d'habitude.
Ah bon? Et là, qui y avait? Non, c'est pour m'empêcher d'avoir mal de tête que je vous. Bien. Bien, alors j'en arrive à ce point que je vous ai signalé important. C'est que Jacob, en tant que Jacob, refuse la bénédiction matérielle. Alors, nous allons voir les textes qui concernent ce point. Ensuite, on arrivera à un deuxième problème, c'est le bilan du chapitre sur ce que je vous ai appelé le demi-repentir de Ésaü. Alors, vous allez d'abord prendre la première référence que je vous ai donnée, c'est dans la paracha de Vayetse. Ça va être Kafhet, pas Kafhet. Bon. Kafhet, 28. Voilà, alors prenez chapitre 28, verset 20. Alors dans les premiers versets du chapitre, le récit de la Torah nous montre Jacob quittant le pays de Canaan. Il part de Beersheba, où se trouvaient Yitzhak et sa famille. Et il se dirige vers Haran. Ça, c'est le premier verset du chapitre. Il se dirige vers Haran, qui est l'endroit où sa mère l'avait envoyé pour se mettre, d'une part, à l'abri. Qu'est-ce qui se passe? Se mettre à l'abri de la colère ou de la vengeance d'Ésaü. Et d'autre part, c'était l'endroit où aussi son père l'avait envoyé pour prendre femme, de telle sorte que les tolados continuent à travers Jacob. Et dans ce récit, il y a un passage très important que nous n'avons pas encore étudié. C'est le passage de la vision que Jacob a sur le chemin à Bethel, et qui est la scène, le récit qui est connu sous le nom de l'échelle de Jacob, l'échelle des anges. Vous vous rappelez de cela? Vous l'avez vu. On n'a pas encore étudié, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, lorsque, à la fin de cette vision, Jacob fait un vœu, et nous allons le voir dès le verset 20. Vaïdar Yaakov Neder. Et Jacob fit un vœu. Les mots en disant. Alors, vous allez quand même apprendre le mot de Neder. Neder, un vœu. Qu'est-ce que c'est qu'un vœu en français? Faire un vœu. C'est ça peut être un souhait, mais c'est un peu dérivé, ça a un sens beaucoup plus central.
Une promesse.
Une promesse de quoi? Non, c'est une promesse, mais une promesse de quoi? De quelle catégorie? Un souhait, c'est un vœu, c'est la même chose.
Un engagement?
Un souhait, vous l'avez dit. Un engagement de quoi?
De dire quelque chose en échange de ce qu'on
va obtenir. Oui. C'est trop large encore.
C'est un vœu par rapport à Dieu.
C'est un vœu de quelle nature?
Spirituel.
Là, il y a un élément de plus, un vœu par rapport à soi-même, mais de quelle nature?
La réciprocité.
Voilà, je vais vous dire la réponse. Un vœu dans le sens de Neder, et dans le sens du terme français, mais dans le sens technique de ce terme, au sens légal, c'est un vœu de privation. Un Neder. Lorsqu'on fait un vœu de don, ça s'appelle une nedava. Nedava. Ça veut dire lorsque je m'engage à donner quelque chose, c'est une nedava. Et quelqu'un de généreux, on l'appelle nadive. Mais neder, c'est un vœu de privation. Et vous apprendrez une chose extrêmement importante, c'est que d'une façon générale, la Torah est très réticente quant à ce comportement qui apparemment est d'une piété indéniable, qui consiste à faire des vœux. Pourquoi? Je vous dis très rapidement aujourd'hui, parce que dès que j'ai fait un vœu, je me suis engagé, apparemment, tout se passe comme si je me suis engagé à une mitzvah supplémentaire que la Torah, elle, n'a pas prévue. C'est bien clair. Alors, c'est pourquoi je vais vous citer un enseignement de la Gemara à ce sujet. C'est pourquoi la Torah n'aime pas l'engagement par vœu. Parce qu'on n'est pas sûr de l'accomplir. Et tant qu'on ne l'a pas accompli, on est appelé racha. À partir du moment où on l'a accompli, on sera appelé tzaddik. Mais c'est très périlleux. Peut-être qu'on ne pourra pas l'accomplir. Et je vais expliquer pourquoi un peu plus. Mais vous comprenez d'abord la première donnée. Okay? C'est-à-dire, la Torah ne tolère les vœux que si c'est vraiment nécessaire pour s'aider à rester moral. Par exemple, quelqu'un qui, s'il ne prend pas sur lui des serments de privation, d'assaise supplémentaire pour s'aider à rester moral, risquerait de ne pas réussir, alors on lui tolère cela comme thérapeutique. Vous avez compris ce que j'ai dit? Je ne sais pas si j'ai décidé de vous
clair.
Pour rester moral, pour rester dans l'ordre des vertus. Si quelqu'un sent qu'il a besoin d'être aidé par des précautions supplémentaires, de serments qu'il prend sur lui-même, indépendamment du fait que, d'une façon globale, nous sommes engagés par rapport à la Torah, de prendre en plus des disciplines supplémentaires par serment personnel pour s'aider.
C'est par exemple
la Par exemple. Et la Torah n'aime pas ça. C'est-à-dire, s'il réussit, on va le féliciter. La Torah emploie un terme à propos du nazir qui est très précis. Adam qui y palait l'indor neder. Lorsqu'un homme fera cette chose merveilleuse, héroïque, extraordinaire, de s'engager par eux. Faites bien attention à cela, parce que du point de vue de la définition d'une piété générale, on pourrait se dire, mais plus on ajoute des vœux, plus c'est mieux. Pour la Torah, c'est pas vrai. Sauf dans un cas particulier, si c'est vraiment nécessaire pour s'aider à être tzaddik. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Mais on ne doit pas juger à partir du cas anormal de celui qui a besoin de béquilles supplémentaires pour le cas normal en général. C'est-à-dire, même si les cas anormaux, et malheureusement de notre temps les cas anormaux, sont le plus grand nombre, la règle reste quand même pour la vérité. C'est-à-dire la vérité, c'est que nous avons obligation pour les mitzvot de la Torah et pas plus, ni moins, d'ailleurs. Alors j'explique maintenant la raison, si vous avez bien compris le principe, c'est clair ? C'est-à-dire que on va féliciter quelqu'un qui s'engage dans cette voie de cet ascétisme-là, s'il réussit. Mais s'il ne réussit pas, il est passible de ce dont il s'est privé. La Gemara dit très en clair d'ailleurs, au jugement dernier, on lui demandera compte du bonheur dont il s'est privé et que Dieu lui avait donné en le créant, en s'imposant des restrictions supplémentaires. Vous avez compris cela ? C'est bien clair. Et donc, j'ai un peu caractérisé de façon schématique pour vous faire sentir la différence avec ce qu'on pourrait définir spontanément comme une piété, plus elle est exagérée, plus elle est pieuse, et c'est tout. Vous avez compris le problème ? C'est bien clair ? Voilà l'explication que la Torah donne de ce fait lui-même. C'est que, et si nous avions eu le temps, on devait la semaine dernière étudier dans le passage de Gemara que je vous ai donné, c'est que nous sommes formés de deux penchants. Un penchant au bien et un penchant au mal. Vous vous rappelez que j'ai un peu parlé de cela en vous présentant ce texte. Vous vous rappelez de cela ? Je ne sais pas si vous l'avez déjà exploré. Enfin, je vous avais donné cette analyse. Il y a quatre possibilités de dire que nous sommes par nature que bon et le mal vient d'ailleurs. Vous vous rappelez de cela ? Ou par nature que mal, mais le bon, le bien vient d'ailleurs. Ni bien ni mal. Et puis, la formule que nous donne la Torah, c'est qu'une introspection honnête nous fait nous connaître nous-mêmes de la manière suivante, dans la formule suivante. C'est que lorsque je veux le bien, c'est moi qui veux le bien. Lorsque je veux le mal, c'est moi qui veux le mal. Qu'on ne peut pas tricher avec cette responsabilité. Et que finalement, ça signifie que nous sommes constitués dans notre anthropos même, dans notre anthropologie, dans notre identité humaine, de deux tendances. L'une qui nous pousse à faire le mal que nous connaissons comme mal, et l'autre qui nous pousse à faire le bien que nous connaissons comme bien. J'ai formulé comme ça pour vous rappeler la définition du tzaddik selon Noir. Vous vous rappelez de ça ? Et alors, il y a un autre principe de l'enseignement de la Torah, c'est que nous avons une aide contre le yetzer hara qui nous pousse à faire le mal à la mesure des mitzvot de la Torah. Mais si nous prenons sur nous-mêmes une discipline supplémentaire que nous décidons nous-mêmes, nous ne disposons pas de cette aide contre la tendance au yetzer hara. C'est-à-dire, si je prends sur moi un serment supplémentaire, j'agrandis la force du yetzer hara. Vous comprenez ce principe que on a d'afka envie de ce qui est interdit. C'est une des stratégies du yetzer hara. C'est clair ce que je dis là. Par conséquent, rappelez-vous de ce principe, on l'étudiera d'autre part, parce que pour le moment je vous donne comme postulat. C'est que nous avons une aide particulière qu'on appelle siarta dishmaya. C'est de l'araméen, mais vous allez quand même... apprendre ce mot-là, je vais vous dire pourquoi. Siarta Dishmaya. Siarta Dishmaya, vous connaissez ce mot-là ? Personne ? Et pourquoi vous l'écrivez pas ? Où vous apprenez
en l'air ?
C'est ça ? Pour l'écrire. Toutes les façons que je vais vous la donner. Actuellement, je ne sais pas. Alors, littéralement, ça veut dire l'aide du ciel. Siata. En hébreu, vous avez le mot Siura. Siura, qui veut dire l'aide. L'essayer à aider. Vous connaissez ce mot-là ? Bon. Alors, Siata, Maya, ça veut dire l'aide du ciel. On a une aide supplémentaire pour lutter contre les yetzer hara, mais dans le domaine des obligations qu'a donné la Torah. Si je m'impose des obligations supplémentaires, je n'ai pas cette aide supplémentaire. C'est la raison pour laquelle c'est déconseillé. C'est bien clair ? Alors, quand on a fait imprudemment un vœu, et qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas capable de le tenir, il faut se faire délier de ce vœu-là. Je schématise la règle, mais vous comprenez pourquoi. Ne pas rester avec ces remords de scrupules accumulés qui sont inutiles. C'est bien clair ? Bon, vous connaissez la première cérémonie du jour de Kippour, qui est le Kal Nidre, où on délie tout le monde de tous les vœux, de telle sorte que l'année puisse recommencer vierge. Pourquoi c'est très important d'être le jour de Kippour au Kal Nidre, et jusqu'à la fin, jusqu'à l'année. Mais ça commence au calembour. C'est clair? Vous connaissez cette cérémonie du calembour? Bon, je vous en parlerai quand on arrivera au calendrier et à mémoire. Ça, c'est la prononciation ashkénaze qui prononce le kamat o. Vous rappelez de cela? Seulement, il y a une erreur là, parce que c'est de l'araméen, c'est pas de l'hébreu. Et si c'était de l'hébreu, on dirait kol hanedarim. En araméen, on dit kal nidre. Avec un kamat, mais ça se prononce kal. C'est de l'araméen, c'est pas de l'hébreu. Vous habituerez à cela plus tard, c'est que l'araméen et l'hébreu se ressemblent beaucoup. Mais ce sont deux grammaires radicalement différentes, malgré tout. Comme l'arabe et l'hébreu se ressemblent pas mal, c'est deux grammaires différentes. Top. Alors, retenez ça en tout cas. Kalimbré, c'est un mot araméen. Bien. Alors, vous avez, je vous apprends en parenthèse, lorsqu'on écrit une lettre ou qu'on commence à écrire une page, suivant les communautés, suivant les habitudes, on l'a nommé soit Bethé. Vous avez remarqué ça? Alors, Bethé, ça veut dire Bezra. Non, Bezra fâché. Et soit vous avez dans certaines communautés, Bessimkhamer, Salut, Bissiarta Lishmaïa, avec les. Donc quand vous avez ces trois lettres, c'est Bissiarta Lishmaïa, avec. Okay. C'est BT, c'est Bézratacha.
Et ça, excusez-moi, on peut écrire
le nom de l'autre. Oui, en général, les sœurs écrivent comme ça, les sœurs écrivent comme ça, mais c'est équivalent.
Parce qu'on m'a dit qu'il ne fallait pas écrire la première manière, parce que. Si on était
amené
à jeter un
cahier. Non, puisqu'il y a la condition de mettre qu'un hé seulement. Oui, mais c'est pas le nom de Dieu. Et faites attention à la piété exagérée. Par exemple, vous avez des juifs qui en français n'écrivent pas le mot Dieu en français, ils vous mettent des et trois petits points. C'est d'un mauvais goût extraordinaire. Génial. Le mot de Dieu, en français, c'est un mot idolâtre. On ne sait pas ce qu'on veut dire avec. On l'emploie parce qu'on parle français. Okay? C'est le mot français qui vient de Deus latin. Vous savez que c'est Deus en latin. Theos en grec. C'est ce mot-là. C'est un mot de l'idolâtrie. Or, les juifs pieux, pieux, entre guillemets, qui écrivent des trois petits points pour faire dire, regardez qu'on fut pieux. Okay? Avec trois points. Veulent appliquer. Pardon ?
C'est par habitude et non par de conscience.
Oui, mais je parle de ceux qui ont inventé ça. et croient qu'ils appliquent là cette règle qu'on n'écrit pas le nom de Dieu inutilement, sauf dans le Sefer Torah. Okay? Alors, mais ils ne se rendent pas compte que la règle ne joue pas d'afka pour un mot païen en français. Vous avez compris ? Mais bien sûr. Et je veux dire, ne croyez pas que ce nom de Dieu en français est sacré. C'est un mot de l'idolâtrie.
Ah d'accord, mais je veux dire, quand on écrit, on signifie quelque chose.
On fait allusion à celui dont je parle quand je parle du Dieu d'Israël, à celui qui est Dieu. Mais ce mot-là n'est pas un de ses noms à lui. Oui, attendez, j'en profite pour vous dire pourquoi. J'aime pas du tout cette traduction de l'éternel. Je crois que je vous en ai parlé une fois. Non, pardon. Il me semblait, bon, je vais vous le dire maintenant. Voilà, quand les Français, quand les Juifs en France ont commencé à vouloir traduire en français, ils ont eu un problème pour la traduction du nom de Dieu, les Yud Kevavke, les quatre lettres, que l'on lit par le mot de Adonai, qui signifie Monseigneur. Adonai, c'est un pluriel de majesté, c'est pas le pluriel avec patah, c'est un pluriel avec kamat, à la fin du mot Adonai. Bien. Alors, ils ont voulu éviter de traduire comme les catholiques. Les catholiques ont substitué au mot de Adonai, qui est le terme par lequel on reçoit la souveraineté de celui qui est Dieu, le Adon, de nous, Adonai. Les catholiques avaient substitué l'expression « le Seigneur ». Et « le Seigneur », ça fait allusion à qui vous savez. Et alors, les Juifs étaient donc très gênés. Comment traduire « Monseigneur » Ça ressemble trop à « le Seigneur ». Alors, ils ont préféré la traduction qu'ont donné les protestants. Et les protestants ont inventé ce mot-là de l'éternel. C'est clair ? Alors, les Juifs se sont habitués, pour des raisons sociologiques et historiques, on peut le comprendre. Les Juifs étaient une minorité en France, les protestants aussi, Ils avaient une tendance plutôt à se rapprocher de la minorité protestante que de la majorité catholique, en ignorant finalement, c'est peut-être pas le mot, en négligeant, le fait que théologiquement, les protestants sont beaucoup plus loin du judaïsme que les catholiques. Ce qui trompe, c'est que les protestants lisent aussi la Bible, qu'ils appellent l'Ancien Testament, alors que les catholiques ne la lisaient pas depuis quelques années, ils ont l'autorisation de lire avec un lecteur. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et alors les juifs ont cru que les protestants c'est plus proche qu'eux. Je ne parle pas à l'échelle individuelle, surtout dans des phénomènes de minorité. Il y a eu parfois, et pendant la dernière guerre, des phénomènes de solidarité entre protestants et juifs plus nombreux qu'entre catholiques et juifs. C'est inévitable, mais c'est un phénomène humain et qu'au fond, il faut mettre au titre de la vertu de l'identité française plutôt que du christianisme humain. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Par exemple, comme aujourd'hui, il y a des rencontres judéo-chrétiennes. Bon. Et je peux vous en parler d'expérience, j'ai été mêlé à la fondation de ces choses-là, à laquelle je n'ai jamais participé, et je vais vous dire pourquoi, je vais vous dire tout de suite d'ailleurs, parce que dans la charte de l'amitié judéo-chrétienne, il y a une clause qu'on s'interdit de convertir l'un à l'autre. Or, tant que l'Église ne renonce pas à convertir des juifs au christianisme, nous ne pouvons pas, nous, renoncer à convertir des chrétiens au judaïsme. C'est ce que j'ai dit officiellement au comité, j'ai dit, déclarer officiellement que l'Église s'engage à ne plus convertir de juifs, je vous signe votre charte. Sinon, je gardais ma liberté de convertir des chrétiens au judaïsme. C'est clair ? Bon. C'est pas une chose simple, mais sinon, j'aurais pas pu être directeur de Mayotte. Je reviens au problème. Non, je plaisante, pas tellement. Là. Et alors, de toutes les façons, ce sont des milieux très ambigus. La plupart des chrétiens qui viennent dans ces assemblées ont un juif dans la famille, en général le conjoint, et la plupart des juifs qui viennent dans ces assemblées ont aussi des problèmes analogues. C'est pas exactement des chrétiens, c'est pas exactement des juifs qui se rassemblent là-dedans. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est très trouble. Et sauf peut-être les prêtres, bien, surtout s'ils sont célibataires, il n'y a pas de problème. ou les rabbins, j'ai rien dit. Et j'ai posé une fois la question. Dans les premières, ça a été fondé, comme vous vous rappelez, par Jules Isaac, Edmond Flegg, Léon Algazi, et vraiment de grandes personnalités de ce temps-là. Et j'ai posé la question, pourquoi vous avez attendu 2000 ans pour qu'il y ait une rencontre entre juifs et chrétiens à ce niveau-là? Donc c'est imputable ni au judaïsme ni au christianisme. C'est imputable à l'état de civilité de la société française qui a fait que c'était possible. Et c'est un phénomène de civilité entre juifs et chrétiens, c'est-à-dire entre citoyens du même état, de la même cité, et c'est pas du tout une rencontre entre le judaïsme et le christianisme. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est bien clair. Bon, je referme la parenthèse. Je vous disais d'ailleurs à l'époque que les chrétiens étaient travaillés par des besoins d'œcuménisme entre les églises chrétiennes. Vous savez ce que ça veut dire, œcuménisme ? C'est un mot grec qui signifie « universalisme ». Okay. D'essayer de trouver, par exemple, le même texte pour le pater. Vous savez ce que c'est le pater ? Non ? Une de leurs prières. Bon. Etc. Et alors, j'étais intervenu d'ailleurs à l'époque pour leur dire « Écoutez, vous n'arriverez jamais à trouver le même texte, parce que c'est traduit de l'hébreu. Si vous demandez à un juif qui vous donne le texte original, peut-être vous allez quand même arriver à vous rencontrer. » Ils sont encore en train d'étudier le dossier. Mais je reviens au problème. C'est que, pour fermer cette parenthèse, à propos du mot de l'éternel. Alors, les juifs avaient tendance plutôt à imiter les protestants, parce que c'était une minorité, et pas les catholiques, parce que c'était la majorité. C'est bien clair ? Alors qu'en réalité, retenez bien cela, théologiquement, les protestants sont beaucoup plus chrétiens que les catholiques vis-à-vis de la différence avec le judaïsme. Les protestants sont beaucoup plus directement branchés sur la théologie des évangiles que les catholiques. Ça a l'air paradoxal, mais c'est comme ça. Et les catholiques, c'est une rivalité historique des juifs. Les catholiques se prétendent être les vrais juifs, pas les protestants. Les protestants se prétendent être les vrais chrétiens. c'est bien clair ? Bon. Alors, c'est Luther qui a inventé ce nom-là, dans sa traduction allemande de la Bible. Et il voulait se décatholiciser, je vous l'ai dit. Et alors, ils ont utilisé un terme philosophique. C'est-à-dire, l'éternel, c'est ce qui est en dehors du temps. Alors que c'est contraire à l'enseignement des prophètes qu'il y a une présence du Créateur dans le temps et dans la durée. L'idée philosophique qui correspond, c'est le Dieu vivant, alors que l'Éternel, c'est une idée. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites ? C'est bien clair ? Bon.
Ça traduit pas l'infini ?
L'alchimie ?
L'infini.
L'infini, non, alors qu'ils disent l'infini. Mais l'Éternel, c'est autre chose. L'Éternel, ça veut dire... Je veux dire, c'est une théologie qui n'admet pas ce que nous appelons la providence. C'est-à-dire la relation entre Dieu qui a créé le monde et l'histoire de son monde. L'Éternel n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans le temps. Vous avez compris le problème ? C'est une idée des philosophes qui ne croient pas en un Dieu qui existe, mais en une idée de Dieu qui n'existe pas. C'est clair jusque-là ? Bon. Alors donc, n'employez pas l'Éternel. Pourquoi j'ai parlé ? Pourquoi on a parlé de ça ? Ah oui. Eh bien, c'est très simple. Chaque fois qu'il y a un hé, on met un couf. Mais la meilleure des manières, c'est de mettre, si c'est un hé, de mettre un hé comme ça. Si c'est Elohim, de mettre un aleph comme ça. Okay. Et alors, les anciens paradigmes ne mettaient pas un hé, mais un dalet. Vous pourrez trouver dans l'ancien texte le dalet. Si c'est Hachem, c'est Dalet. Si c'est Elohim, c'est Aleph. Okay. Et les anciens paradigmes disaient Yud De Vav De et pas Yud Ke Vav Ke. C'est-à-dire, je vous ai expliqué que c'est deux manières possibles. Pour la Kabbalah, c'est deux mondes différents, mais c'est le même sens. Le Hé, soit j'enlève ce Yud la lettre, okay, soit j'allonge le Yud et c'est un coup. Bien.
On ne
écrit
pas le nom de. Enfin, ça ne correspond pas.
Parce
qu'on, c'est un,
on ne connaît
pas, on
ne
sait pas écrire le nom de Dieu.
Non, écrire, on sait. C'est, attends, un à la fois. Oui. Écrire, on sait. C'est les quatre lettres, Yud, He, Vav, He. Mais on ne les prononce pas. Et on prononce à la place le mot de Adonai. C'est clair ? Qui signifie mon Seigneur. Ça correspond à une règle de la Mishnah, c'est qu'on n'a pas le droit d'invoquer le nom de Dieu en vain. Et qu'est-ce que ça veut dire, invoquer le nom de Dieu en vain, sans le reconnaître comme souverain ? C'est une invocation par laquelle je reconnais la souveraineté de Dieu sur moi en disant Adonai. C'est clair ? Bon. Alors, vous avez dû voir, certainement dans des livres de Goïm, le mot de Yahvé, Jéhovah, peut-être. Alors, je vais expliquer d'où vient leur erreur. Être ignorant à ce point, c'est pas possible. Voilà, je vais vous montrer. Je vais écrire en dalet au lieu de hé. Le schéma vaya, c'est donc yud, hé, j'ai mis un dalet, vav, hé. Bon, ce yud qui est marqué, on ne le prononce pas. Il est écrit, mais on ne le prononce pas. On lit à la place le mot de Adonai, qui est écrit comme ça, Adonai. C'est-à-dire? Alors, dans le livre imprimé, vous avez. Ces quatre lettres-là écrites avec les voyelles de Adonai. Il y a un Sheva Patar quand c'est sous le Aleph, mais quand c'est sous le Yod, il y a un Sheva, le Folem et le Kamatz. Alors ils ont lu Yehovah. Vous voyez d'où il y a l'erreur ? Top. C'est quoi vous trouvez Jahvé ou Yahvé ? Bon. C'est le même genre d'erreur. Et c'est le nom de Jupiter en latin. Je ne sais pas si vous voulez. Jovis. Voilà donc pour ce problème. Alors, vous avez par exemple, dans certains livres, vous avez deux Yud avec un Sheva et un Kamatz. Vous avez remarqué ça ? Alors, c'est le premier Yud ici avec le Sheva et le dernier Yud ici avec le Kamatz. Okay. Bon. Alors, je reviens à la question des vœux. Je pense que maintenant c'est suffisamment clair. Un vœu, c'est prendre sur soi, en particulier, une privation. S'imposer une obligation supplémentaire. Je vous ai dit très rapidement la règle, c'est que la Torah n'aime pas les vœux, sauf si c'est vraiment nécessaire, il faut demander le conseil d'un spécialiste, parce qu'on ne sait jamais à l'avance si on est capable de tenir un vœu. Alors on ne fait pas de vœux. C'est clair. Parce que tant qu'on ne l'a pas accompli, ce vœu, On est coupable. Dès qu'on l'a accompli, on a un mérite supplémentaire. Mais pendant tout ce temps-là, on est en péril d'être en culpabilité. Je pense que c'est bien clair. C'est pourquoi, vous verrez, dans les familles juives traditionnelles, on interdit aux enfants de dire « je te jure ». On interdit de jurer. C'est bien clair. Vous avez bien compris cela ?
Il y en a qui disent « ils parlent » et qui disent
« oui, bon, ça c'est un peu de... un drive. Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un truc. Blineder, ça veut dire « je m'engage mais sans faire de vœux ». Alors, ne t'engage pas en faisant un vœu. Enfin, c'est de la piété gentille, quoi. Bessédère. Et ne substituez pas les formes extérieures de la piété à la piété elle-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça fait un peu Tartuffe. Alors, voilà ce que dit le texte. Vaïdar Yaakov neder les mots. Et Jacob fit un vœu en disant Imiye Elohim imadi. Si Dieu est avec moi, tu es bien. Ushmarani baderech hazé asher anochi olech. Et me garde, me préserve. Me veille sur moi dans ce chemin que je vais prendre, et c'est le chemin de l'exil et qui est périlleux, et qui me donne du pain pour manger ou et un vêtement pour m'habiller, et que je reviens en paix à la maison de mon père, et Hachem sera pour moi Dieu. Bon, il y a une suite, mais ce qui nous concerne, c'est surtout ce verset. Alors, apparemment, on risque d'être désorienté si on ne sait pas lire exactement ce qu'il y a écrit, et de croire qu'il s'agit là d'une prière avec condition. Tu me donnes, je te donne. Vous comprenez ? Ce qui est la forme la plus grossière possible de la prière. La formule des latins était « do ut das ». « Do », je donne, d'où est venu le mot français « le don okay ».« Do », c'est le verbe « donner ». Et ut, afin que, das, tu donnes. Bon, c'est pas du tout ça ce qui se passe ici. J'ai compris ce que je veux dire. Ça veut dire qu'en réalité, et vous allez essayer de le comprendre par vous-même, dans cette formule de vœux, d'abstinence, Jacob se prive de la bénédiction matérielle qui ne devait aller qu'à Ésaü parce qu'il en a peur de cette bénédiction. C'est le profil que je vous ai rappelé, l'homme de la vocation spirituelle qui a peur de se salir les mains dans la vocation matérielle. Il en veut pas. C'est clair ? Vous avez compris le problème ? Alors, où vous le voyez dans le verset, cette idée que je viens de dire ? Je vous rappelle qu'hier, nous avons... C'est pas hier ? C'est hier ? Oui, oui hier. Hein ? Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui ?
Mercredi.
Donc c'était lundi, oui. Lundi, je vous ai parlé de cela. C'est une position extrêmement inconfortable. Je vous en ai parlé suffisamment, je crois. D'être l'homme de l'option uniquement spirituelle, mais comme il faut quand même vivre matériellement, alors on a une relation de parasitisme hypocrite avec ceux qui s'occupent des choses de la matière. Vous avez compris ce que je veux dire ? C'est bien clair, hein ? S'il n'y a pas un contrat loyal et franc de relation des vocations, qu'il y a deux vocations humaines, l'une spirituelle et l'autre matérielle, et elles sont unies fraternellement l'un pour l'autre, s'il n'y a pas ce contrat-là, C'est une position extrêmement inconfortable. Je vous ai parlé de cette gêne du juif de l'exil qui a vécu 2000 ans comme ça. En se présentant comme étant l'homme d'une vocation purement religieuse, judaïsme religion, et ceci dit, on est quand même bien obligé d'être inséré dans la vie de ce monde-ci, qu'on a laissé au goyim, mais alors, relation, eh bien, ce que je vous ai décrit. Vous vous rappelez ? Rattachez ça aussi au problème de la mission d'Israël dans l'exil. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des époques où il y avait une mission de témoignage et de transmission de valeurs, mais il y a longtemps que c'est fait. Et si ça n'a pas réussi, eh bien, il n'y a plus d'espoir. Bon, on reprendra ça une autre fois, c'est un autre sujet. Mais chaque fois qu'on pose la question, et quelle est la mission du peuple juif chez les nations, et la réponse, c'est ça, c'est ce problème-là. C'est une espèce de greffe parasitaire. Vous avez compris ce que je veux dire ? Il faut être très vigilant au phénomène de l'antisémitisme qui est causé par cela. Il y a une espèce de dialogue de sourds. C'est bien compris clairement ? Alors, en tout cas, il y a aussi de la mauvaise foi, bien sûr, dans cet antisémitisme, parce que les juifs ne se bornent pas à gagner la rue chez les goïms, ils fécondent la civilisation des goïms, surtout au niveau économique, financier. Vous savez cela, je pense que c'est pas la peine. Mais quoi qu'il en soit, c'est une relation très inconfortable par rapport à la définition de l'option strictement spirituelle. L'idéal, c'était la vision de Isaac, c'est que de ces deux enfants, un soit le moine, si vous voulez, enfin le rabbin comme vous voulez, et l'autre soit l'homme d'affaires, mais qu'ils soient frères et qu'ils partagent. L'un partage son mérite spirituel avec l'autre, et l'autre partage, enfin, lui envoie la matbite, si vous avez compris le problème. C'est clair ? D'accord. Et alors, où vous voyez dans le verset que Jacob, bien qu'ayant reçu la bénédiction de l'abondance matérielle, la refuse ?
S'il me donne du pain.
Oui, s'il me donne du pain. Comment ça vous traduit ? À manger. C'est ce qu'on appelle un pléonasme en français, non ? Du pain à manger. Du pain pour manger. Du pain pour manger, vous verrez qu'il n'y a pas de pléonasme en hébreu. Vous bégayez les bouches et... Voilà. Alors, la Midrash explique de façon très simple. Je ne veux pas avoir du pain que je serai obligé de vendre pour acheter un vêtement. Ou un vêtement que je serai obligé de vendre pour acheter du pain. Si j'ai du pain, c'est pour manger. Si j'ai un vêtement, c'est pour m'habiller. Il a refusé le commerce. Vous voyez à quel point ça peut paraître paradoxal. L'ancêtre des Juifs a refusé le commerce. C'est clair ? Voilà. Et il se satisfera de cela. Le pain pour manger et le vêtement pour s'habiller. C'est bien clair ? Notez bien ce passage. Ça vous aidera de comprendre que, bien qu'il fallait bien que le plan de Rivka se réalise, Jacob, lui, au niveau de l'identité Jacob, est très réticent pour cette bénédiction. Il en a peur. Vous suivez ? Bon. Alors maintenant, nous allons voir la confirmation de cela. Lorsque Jacob revient de l'exil, c'est au début de la paracha de Vayishlach. Et je vous ai dit de voir le verset 6.
Très bien,
du chapitre 32. Et nous allons voir avec Fashi, j'ai encore oublié Malou. Tu laisseras la porte ouverte. Tu veux ouvrir là-bas, il fait extrêmement chaud, je sais pas ce qu'il dit. Voilà, vous y êtes ? Voilà, lorsque Jacob revient de l'exil, au début du chapitre, à partir du verset 4, on dit qu'il envoie des émissaires à Ésaü pour tenter de faire la paix. Et puis, il envoie un message. Je vais vous lire moi-même le verset 5 d'abord, et on abordera le verset 6 plus directement. Vaïtsav otam les mots, et il recommanda à ses envoyés en disant, « Kotomzum l'adoni l'Esav, ainsi vous direz à mon maître Esaü, Koamar avdecha Yaakov, ainsi a dit ton serviteur Jacob. » Vous voyez, l'attitude du juif de l'exil qui, parlant à son ennemi, lui dit, « Mon maître, ton serviteur. » Vous voyez un peu ce profil du juif qui se courbe. Okay. C'est bien clair ? Par stratégie de survie, d'ailleurs. Alors, voici donc le message. « Im Laban Garti, j'ai séjourné chez Laban, Vaechar Adata, et j'ai tardé jusqu'à présent. » Bon. Verset 6. « Vaïli, Shor, Vahamor, et j'ai eu des bœufs, des ânes. » On emploie le singulier pour dire un terme collectif. Okay. « Et j'ai eu bœufs, ânes, tzom, troupeaux, Eved, Veshifra, serviteurs et servantes, Veshlecha, Leagila, Adoni. » Et j'ai envoyé des envoyés pour le dire à mon maître, Limtsochen Benecha, pour trouver grâce à tes yeux. Tout de suite, le Midrash dit, mais il semble y avoir une contradiction. Il a laissé un Ésaü furieux du fait que la bénédiction matérielle lui a été prise. Et voilà que Jacob, pour faire la paix, lui envoie des envoyés pour lui dire, eh bien, tu sais, elle a réussi chez moi ta bénédiction. Vous avez compris la difficulté ? Et surtout dans le verset, en quoi il va trouver grâce à ses yeux ? D'après, il va exciter sa colère. Alors, prenez Rachid. Rachid nous dit non, il y a un message tout à fait différent. Suivez bien. Rachid sur le verset 6. Vaïli, Shor, Vahamor. Et j'ai eu des bœufs et des ânes. Top. Abba, Amarli, mon père m'a dit, sous-entendu dans la bénédiction, Mital, Hashamaim, Mishmane, Aret. Tu seras béni par la rosée du ciel et le gras de la terre. Vous vous rappelez ? Bon. Zo, c'est là que j'ai, moi. Ena lomina shamaim velomina. Ça vient ni du ciel ni de la terre. L'expression en elle-même est d'ailleurs très forte. Et d'où ça peut venir, si ça vient ni du ciel ni de la terre.
Lomina, c'est quoi le don ?
Hein ?
C'est pas envers
Dieu. Quel mot ? Quel mot tu demandes ?
Lomina.
Zou, c'est là. Zou, c'est zé. Cette chose-là, ena, enena, elle n'est pas. En, enena, lomina shamaim, ni de la terre, ni du ciel, pardon, velomina. Voilà ce que nous explique Rashi. Voilà le message que Jacob envoie à Esaü. Ne crois pas que j'ai profité de ta bénédiction. Tout ce que j'ai, ça ne me vient ni du ciel ni de la terre. Comment ça peut lui venir? Très bien. Ça vient de son travail. C'est clair? Bon, vous comprenez bien, là nous avons deux indications parmi d'autres qui nous indiquent bien cela. C'est que Jacob est très réticent à cette bénédiction matérielle. Il la refuse, et d'ailleurs ensuite, il argumente vis-à-vis d'Ésaü pour lui témoigner qu'il ne l'a pas utilisé. C'est bien clair. Bon, donc je reprends un peu l'analyse de ce que cela représente. C'est essentiellement cela. C'est qu'il y a un profil du juste qui a peur de la vocation qui devait être celle d'Ésaü. Or, Israël doit prendre sur lui les deux vocations. C'est quand Jacob est capable des deux vocations qu'il s'appelle Israël. Vous vous rappelez du verset, que non, pas vu en détail d'ailleurs, mais vous l'avez lu, la voix, c'est la voix de Jacob, ça c'est la vocation spirituelle, les mains, c'est les mains d'Ésaü, ça c'est la vocation matérielle. Le Midrash a expliqué, le Gaon de Vilna donne une très jolie explication là-dessus, je vais vous la montrer sur le verset, que quand la voix, quand les mains c'est les mains d'Ésaü, la voix de Jacob est faible. Mais quand la voix de Jacob est forte, les mains c'est aussi les mains de Jacob, et c'est ça l'Israël. Vous avez compris l'explication? Alors vous allez le voir dans le verset, je vais vous dire quel est le verset, revenez en arrière.
Et la voix est faible, il a obligé de changer de voix.
Non, la voix est faible, ça veut dire qu'il n'a pas la force de porter son témoignage, parce qu'il en est empêché, puisqu'il n'a pas la puissance politique, tout simplement. Yadaïm, ça veut dire la vocation matérielle, la cité. Lorsque la cité est entre les mains d'Ésaü, la voix de Jacob est très faible. Jacob parle à sa place, on n'entend pas Jacob. Il y avait, je vous ai cité une fois un auteur qui s'appelle Splenger, non, juste après, Toynbee, un philosophe de l'histoire anglais. Je vous ai cité ça à un cours récent. Okay. Vous rappelez les structures des civilisations qui se répètent. Toynbee est d'ailleurs très antisémite. Hein, a dit quand même dans son livre que l'humanité ne connaît pas encore la Bible parce qu'elle ne l'a pas encore reçue des Hébreux. Elle l'a reçue qu'à travers le Coran et les évangiles. Vous avez compris ce que vous dites. C'est-à-dire la voix d'Israël ne s'est encore pas fait entendre. Elle s'est fait entendre que faiblement. Parce que les mains, c'était les mains d'Ésaü. Parce que le pouvoir politique était celui de Rome. Ça va jusque-là? C'est dommage, je n'ai pas préparé ça. Mais qui d'entre vous a lu Rousseau? Rousseau. Bon, dans l'Émile. Vous savez que c'est l'Émile de Rousseau? Bon, je crois dans le deuxième livre. Il y a un passage, mais je vous le chercherai. Je dois avoir la référence quelque part. Ça m'a beaucoup frappé. Rousseau qui dit ceci. Vous savez, Rousseau était un très grand philosophe. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc, Rousseau dit ceci. Chaque fois qu'on nous cite les controverses entre rabbins d'Amsterdam et il cite le cas des rabbins d'Amsterdam et les curés de l'Inquisition, alors on croit qu'on a vaincu les juifs dans la dialectique. On les a pas vaincus, on leur a fait peur. Et on trouvera toujours un juif pour dire amen à ce que dira le curé pour lui qu'il ait la vie sauve. Hein. Et il dit ceci. Attendez que les juifs aient leur état, leurs universités et leurs écoles, et qu'ils seront libres de dire ce qu'ils pensent, alors on saura qui était le Messie. C'est Rousseau qui dit ça en toutes lettres. C'est arrivé, cette prophétie, si j'ose dire, est arrivée de notre temps. Maintenant, en tant qu'Israélien, maintenant qu'Israël existe, parce que grâce au fait qu'Israël existe, ça peut se faire ailleurs aussi, à Paris, à Londres ou ailleurs, on peut parler aux chrétiens face à face et leur dire ce qu'on a à dire des problèmes en question. Tandis que le juif de l'exil était obligé, dans toute une stratégie de courbette, j'ai dit tout à l'heure, dans toute une stratégie de soumission, de faire semblant d'admettre n'importe quoi pourvu qu'on lui laisse la vie sauve. Vous avez compris la différence? Est-ce que c'est clair? Je reviens par exemple au concept de judéo-chrétien qui est le type même du faux concept. C'est un concept monstrueux, judéo-chrétien. Le christianisme, c'est le contraire du judaïsme, sur le même message biblique. Et alors les juifs de l'exil sont très fiers de pouvoir dire enfin ils nous aiment. On va tout passer l'éponge sur tout pourvu que vous comprenez ce que je dis. Et le véritable dialogue n'a encore pas commencé, parce que ça commence d'abord par des mises au point d'un bilan de 2000 ans. On ne l'a pas encore fait. Après, on se parlera. Quand on sera dit ces quatre vérités en face, après on pourra se parler vraiment. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Mais tant qu'on n'ose pas encore, et ça c'est la mentalité de l'exil, ça ne peut pas démarrer. C'est bien clair. Je me souviens d'avoir assisté à une des réunions écuméniques des chrétiens en France, et c'est la première fois que les pasteurs et les curés se rencontraient. Et il y avait à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce nom-là, un très grand pasteur de France, qui s'appelle le pasteur Bögner. Ça vous dit quelque chose? Tu as entendu parler de lui? Il parlait un français magnifique, d'Alsace-Lorraine. Et puis, il a commencé par dire au curé, c'était assez mouvant comme séance d'ailleurs, on va commencer d'abord par s'engueuler, et s'il nous reste du temps, on se dira autre chose. Et vous avez compris l'idée. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas fait d'abord le bilan de ce qui est en suspens, on ne peut pas faire semblant de parler de la même chose. Je pense que c'est clair. Alors, pourquoi je vous parlais de tout cela?
Quand on parle de...
Ah oui, le profil du juif se définissant dans la vocation spirituelle et feignant de laisser à Ésaü la cité. C'est bien clair, quand je dis la cité, vous comprenez tout ce que ça implique. Alors, je vais vous montrer le verset de l'enseignement d'Igon de Vilna et je reviens ensuite à cela. C'est donc dans Toldot, retournez dans Toldot. Vous l'avez au chapitre 27, il me semble, une minute. Chapitre 27, verset 22. Chapitre 27, verset 22, Ken.